Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 à la pointe de l'actu, mais qui n'oublie pas vos précieux zygomatiques, des reportages, des éditos et aussi des interviews inspirantes. Comme chaque matin à 5h10 dans Fallait oser, nous interviewons quelqu'un qui a osé changer de vie. Un récit qu'avec Céline et Eva, nous écoutons toujours avec beaucoup d'attention, de concentration et d'implication. Sauf évidemment quand le type qu'on interview habite un bled au nom rigolo.
Et si tout va bien, eh bien, il devrait ouvrir une pizzeria dans sa ville de Houille.
Monsieur Houille.
Monsieur Houille.
Ok. Heureusement, debout les copains, ce n'est pas que trois fans idiots des visiteurs, c'est aussi un fan des soirées thémas d'Arte, Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, alors que le président chinois Xi Jinping arrive en Europe pour renforcer les liens commerciaux avec l'Ouest, revient sur une route historique, la route de la soie.
Ces petits bateaux.
Non, rien à voir avec votre chemisier, Céline.
Merci d'écouter Europe 1 en ce vendredi 22 mars. Et très bon réveil à tous, il est 6h. Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce vendredi 22 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Christophe Castaner affiche sa fermeté à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Impunité zéro à l'encontre des casseurs. L'Union européenne prête à accorder à Londres deux options pour un report du Brexit, soit le 12 avril, soit le 22 mai. Et puis en football, les Bleus jouent ce soir en Moldavie, début de la campagne de qualification pour l'Euro 2020.
Europe 1.
Je vous demande l'impunité zéro, c'est ce qu'a lancé Christophe Castaner au nouveau préfet de police de Paris Didier Lallement hier. Demain, nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes et il faudra à tout prix éviter les violences sans précédent du week-end dernier sur les Champs-Élysées. Le grand inconnu, c'est que l'on ne sait pas si Paris sera une nouvelle fois visée ou si d'autres villes seront ciblées, Metz, Nice, Montpellier ou encore Toulouse. En tout cas, dans la capitale, les militaires de l'opération antiterroriste Sentinelle vont venir renforcer les forces de sécurité. Des militaires en procédure d'engagement très strict, Aude Leroy.
Il ne devrait pas y avoir de soldats de la force Sentinelle aux abords de l'Élysée, de Matignon ou de l'Assemblée nationale, trop proche des lieux de manifestation. L'idée, c'est que les militaires protègent, comme d'habitude, des lieux sensibles aux risques terroristes. Mais s'il y a une menace de contact avec des gilets jaunes, ils sont dans l'évitement, immédiatement remplacés par des gendarmes mobiles, explique le porte-parole adjoint des armées, le colonel Thomas.
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce qu'il n'y a pas de raison de voir des soldats de l'opération Sentinelle au contact des émeutiers. Les soldats de l'opération Sentinelle n'ont pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas entraînés, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés à cet effet.
Et si par hasard une confrontation gilet jaune militaire a lieu, les règles d'engagement sont très strictes. Utiliser d'abord des techniques de combat, comme le corps à corps, et ne faire usage de son arme qu'en cas de légitime défense, après deux sommations à haute voix, comme les policiers et les gendarmes, pour arrêter un tueur en action ou une voiture folle.
Aude Leroy pour Europe 1. Guerre froide entre l'Élysée et le Sénat. Les sénateurs qui ont décidé de transmettre à la justice les dossiers de trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. Hier, le Premier ministre a refusé d'assister à la séance de questions du sénateur au gouvernement. Richard Ferrand, lui, ne participera pas à une conférence commune qui était prévue à Lille avec Gérard Larcher aujourd'hui. Un proche d'Édouard Philippe dans la tourmente, son successeur à la mairie du Havre, Luc Lemonnier, a démissionné de ses mandats hier soir après la diffusion de photos de lui, nu, par une femme qui se dit victime de cet homme de 50 ans, père de 4 enfants. Il affirme qu'il a démissionné pour protéger sa famille.
Theresa May a accepté les deux dates butoirs proposées par l'Union européenne pour un court report du Brexit.
12 avril ou 22 mai, tout va dépendre du vote des députés britanniques sur l'accord négocié par Theresa May. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a réagi.
L'Union européenne, aujourd'hui, n'a pas toutes les cartes en main, puisque tout dépend du vote britannique. L'Union européenne, de manière très claire, à faire face à une crise politique britannique. Les politiques britanniques sont dans l'incapacité de mettre en œuvre ce que le peuple leur a demandé. Mais cette crise, elle est britannique. En aucun cas, nous ne devons rester bloqués dans cette situation. C'est pourquoi nous avons donné deux échéances. Nous sommes organisés et donc nous ne subirons pas. Mais nous avons voulu apporter des réponses claires qui soient compatibles avec notre propre agenda. Mais maintenant, il appartient aux Britanniques de lever les ambiguïtés qui sont les leurs. Nous n'en avons pas. Nous avons donné deux dates très claires.
Emmanuel Macron avec Isabelle Horry. Des milliers de Néo-Zélandais se sont rassemblés à Christchurch pour rendre hommage aux 50 victimes tuées dans deux mosquées par un suprémaciste blanc. L'appel à la prière a été diffusé dans tout le pays, suivi de 2 minutes de silence. Un deuil national de 3 jours décrété en Irak après un naufrage sur le Tigre à Mossoul. Près de 100 personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont décédées en pleine célébration du Nouvel An kurde et de la fête des mères. Les Boeing 737 MAX vont désormais être tous équipés d'un signal d'alerte lumineux. Il avertira de tout dysfonctionnement en cas de décrochage de l'appareil.
Europe 1, il est 6h04.
La suite du procès Air Cocaïne à Aix-en-Provence.
Journée cruciale hier avec l'interrogatoire des principaux protagonistes, dont les deux pilotes. Depuis le début de l'affaire, leur version n'a pas varié d'un pouce. Ils clament leur innocence. Ils ne savaient pas, Nathalie Chevance.
Ils ont réponse à tout et parlent souvent d'une même voix. Bruno Odos et Pascal Fauré, anciens pilotes de chasse aux tempes désormais grisonnantes, apparaissent plutôt décontractés à la barre, souriant même lorsque leur avocat les désigne comme des innocents. « Mes clients sont de drôles de trafiquants », ironise Maître Dupont-Moretti. Ils encaissent 2000 euros sur un livret A, alors que pour 700 kilos de cocaïne, la commission aurait dû s'élever à 25 millions d'euros. Quant aux recherches sur Internet, trafic de drogue, pilote en prison, simple coïncidence, curiosité, ce ne sont pas des imbéciles, poursuit le ténor du barreau. Ex-militaire, ils savent parfaitement que les ordinateurs ont de la mémoire. Quant au vol transatlantique, oui, c'était l'occasion de sortir de la routine des Paris-Biarritz. Mais les 26 valises un peu cabossées réparties à bord du Falcon, dans la soute et le salon arrière, ce n'était pas notre rôle de les ouvrir, répètent les deux pilotes. Dans l'aviation d'affaires, le client est roi. On ne pose pas de questions. Aix-en-Provence, Nathalie Chevance, Europe 1.
L'Assemblée a voté plusieurs amendements qui vont permettre aux pharmaciens de prescrire directement certains vaccins. Objectif, faciliter le parcours de soins des patients. Paris va taxer les véhicules en libre service. Une redevance va être mise en place sur les scooters, vélos, trottinettes. Une taxe qui servira à réaliser 2500 places pour garer ces véhicules pour qu'ils n'encombrent pas nos trottoirs. À terme, le stationnement sauvage sera verbalisé, Mathieu.
Merci beaucoup de me le signaler comme si je venais au travail en trottinette. C'est mal me connaître. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, avec qui avouons-le, hein ? Nous avons tourné la page de la passion. Féroce, bestiale, obsédante, pour entrer dans cette deuxième phase du couple qu'on appelle phase TLPC. T'as acheté la litière pour le chat ? C'est le temps des disputes et aussi des bonnes résolutions pour sauver notre couple. Pas vrai, Céline ?
On devrait en principe le faire au moins 2 fois par jour. Question d'hygiène.
Mais quand, Céline ? On n'a simplement pas le temps avec nos vies. Et puis, il faut quand même que vous pensiez un peu à votre mari. Vous l'oubliez tout le temps.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, alors que le président chinois Xi Jinping arrive en Europe pour renforcer les liens commerciaux avec l'Empire du Milieu et le Vieux Continent, Fabrice Dalméda nous raconte la passionnante histoire de la route de la soie.
Excellent réveil à tous, il est 6h06. Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur le temps de ce vendredi, Céline. Encore une belle journée. Ouais, même si vous agitez la feuille, je ne peux pas lire. Ouais. En fait, vous la faites tourner comme, parce que vous êtes enthousiaste du fait qu'il fait beau.
Exactement.
Mais cela dit, je ne peux pas.
Vous avez réussi quand même.
Lire, oui. Ouais. Je me doute qu'il
vous
fait beau.
Vous êtes très fort. Une journée sous le soleil pour quasiment tout le monde. Là où ça va rester un petit peu plus nuageux, c'est sur les côtes de la Manche, avec une grisaille quelquefois tenace, puisqu'elle sera encore présente un peu cet après-midi. Attention aux brouillards qui sont nombreux ce matin sur les régions nord de la Loire. Les températures seront très douces cet après-midi, puisqu'elles iront de 15 à 23 degrés du nord au sud, 18 à Paris, 23 à Nîmes, 15 à Cherbourg. Et puis, on aura, je voulais rajouter un truc, mais je ne sais plus.
Vous n'arrivez pas à vous relire.
Non, il va faire beau. Non, j'ai pas suivi mon texte. C'est pour ça, en fait.
C'est une météo très précise. Voilà. Eva Rock, je crois que c'est votre meilleure question de l'année.
Mais oui, en 1923, naissait le mime Marceau. Quel est votre meilleur mime ? Vous nous avez répondu sur Twitter
radio,
avec le hashtag
Europe 1. Mais on est en radio, elle a compris.
Mais il y a GP6gar, par exemple, qui nous dit : je mime très bien Jérôme Lacroix en slip kangourou à paillettes. Guillaume, il nous a rappelé ça quand on a parlé de mime.
Barrez-vous au cours de mime.
Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est les nuls, évidemment. La cité de la peur. Merci beaucoup, vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'heure d'accueillir Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports, et alors qu'on bosse ensemble depuis maintenant près de 7 mois, je pose la question, connaît-on jamais vraiment quelqu'un ? Et quel profiler de génie pour un jour établir justement le profil psychologique d'un individu, non pas double, mais triple ? Schizophrène ?
Bon alors, on n'a plus le droit de ploter, bon alors !
Kleptomane, n'ayant le week-end qu'un hobby ?
Piller les jardinières, les fleurs, les compositions, tout voler.
Et fan d'Étienne Dao ?
week-end Rital pour une escale.
Perso, ça me fait un peu flipper, ce profil psychologique. On passe quand même au journal des sports avec vous, Jérôme Lacroix.
Multicarte,
on peut le dire pour le moins. À la une, Jérôme, une nouvelle histoire à écrire.
Ils sont champions du monde et ils cherchent à conquérir un nouveau sacre européen. Ce soir, les Bleus du foot lancent l'aventure Euro 2020, premier des 10 matchs de qualification. En Moldavie, jeune république entre Ukraine et Roumanie, la sélection de foot est classée 170e mondiale. Alors on se dit, victoire obligatoire pour les stars françaises. C'est aussi ce que Didier Deschamps a dit à ses joueurs. Il a surtout alerté sur un risque de complexe de supériorité.
Prévenir, alerter, ne vous inquiétez pas, je l'ai fait dès le lundi. C'est l'équipe de France. C'est de par ce qu'on fera en termes de concentration, de détermination pour imposer à notre adversaire et obtenir le résultat que l'on veut.
Propos recueillis par Cyril de la Morinerie, le premier Moldavie-France de l'histoire du foot. Coup d'envoi 20h45. Les Bleus s'attendent à 11 Moldaves à la protection de leur but. Alors pour faire bouger ce bloc, Didier Deschamps pourrait aligner dès le coup d'envoi Kingsley Coman, le mobile attaquant du Bayern de Munich. Il est en forme, aux côtés de nombreux autres champions du monde, dont Mbappé, Giroud ou encore Griezmann. Ses qualifications pour l'Euro ont commencé dès hier soir, avec notamment le succès 3-1 des Belges face aux Russes, doublé d'Eden Hazard côté belge.
Mauvaise soirée pour les Parisiennes en Ligue des Champions.
Défaite du PSG 2-0 à Londres face à Chelsea en quart de finale. Aller, match retour mercredi prochain à Paris. Un nouveau cours de tennis à Roland-Garros et sa naissance n'est pas anodine. C'est le cours des Serres d'Auteuil. Sa construction a été à l'origine d'une bataille judiciaire de plusieurs années. 5000 places en terre battue et entourées de serres botaniques regroupant plus de 1000 espèces végétales du monde entier. Inauguration officielle hier. Ici, ça symbolise l'an 1 de l'extension du site, la satisfaction du directeur du tournoi, Guy Forget.
J'ai plus de confort, plus d'air aussi. On sait que par le passé, un des reproches qu'on pouvait adresser à notre tournoi, c'était que parfois les allées étaient congestionnées. Grâce à ce nouveau cours et à cet espace qui est environnant, ça va mieux respirer. Alors...
Des propos recueillis par Corinne Boulou, ce nouveau cours baptisé Simone Mathieu. Qui était-elle, vous le savez ou pas? Moi je ne savais pas. Ancienne résistante et joueuse majeure des années 30. Voilà, le tennis d'aujourd'hui, c'est l'élimination de Mladenovic, Per et Herbert dès le premier tour du tournoi de Miami. Qualification en revanche de Garcia, Cornet et Chardy. Et puis, les basketteuses de Montpellier font un petit pas vers la finale de l'Eurocoupe, la deuxième coupe de la hiérarchie. Elles sont hier soir allées battre en Espagne Gérone 69-66 en demi-finale. Allez, retour jeudi prochain à Montpellier.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Oui, demain, il y a Lyon-Toulon, notamment en top 14 du rugby. Une rencontre, figurez-vous, que le président de Toulon, Mourad Boudjelal, a interdiction de suivre prescription médicale. Pourquoi ? Il vient en effet de se fracturer une gencive à force de crispation de sa mâchoire quand il regarde les matchs de son équipe en difficulté cette saison.
On peut se fracturer la gencive
à force de serrer la mâchoire. Oui,
mon Dieu.
Regarder les matchs, ouais.
Merci. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et alors de passer à la rubrique histoire de cette matinale, je ne vous cache pas mon inquiétude, sachant que la fois où il avait parlé du Brésil, Fabrice Dalméda nous avait dit
« Est-ce que vous voulez faire un effet ?» Et à un moment, je vais dire « Mais le carnaval de Rio est surtout connu à cause de cela. Il y a de la musique et là, vous criez « La samba !»
Samba !» Où il s'apprête à évoquer la Chine ce matin. La question est évidemment, va-t-il nous demander de chanter Pandi Panda a cappella ?» Non, n'entrez pas dans son jeu.
Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein
Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Pendant que Céline Dacosta se mouche élégamment en mode sourdine. Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Xi Jinping, le président chinois, est arrivé hier soir à Rome. Il entame une mini tournée européenne pour défendre notamment son projet Les Nouvelles Routes de la Soie. C'est quoi exactement les Routes de la Soie, Fabrice?
C'est un nom poétique pour désigner les anciennes voies commerciales vers la Chine. La plus importante, celle qui a fait rêver le monde occidental, était terrestre. Elle aurait commencé au 3e siècle avant Jésus-Christ, quand l'empereur de Chine décida de troquer son plus précieux trésor, la soie, contre des chevaux et des armes. Il voulait lutter contre les attaques de tribus nomades. Les Romains ont ainsi pu recevoir des soies chinoises. Une longue fascination pour ce tissu commence. Mais la route était instable, comme les royaumes qu'elle traversait d'ailleurs. Elle s'est perdue et retrouvée selon les époques. Le célèbre voyageur italien Marco Polo la rouvre au Moyen-Âge et la décrit dans le Livre des Merveilles, un texte écrit vers 1300. Après Marco Polo, toutes les nations veulent obtenir des cocons et pour se lancer dans leur propre production de verre à soie et de fil. En France, La Provence y trouve sa fortune, comme Lyon d'ailleurs, et c'est soyeux.
Et par où passer cette route ?
Ah, c'est toute une aventure. Allez, je vous emmène.
Oh oui,
comme Marco Polo, on part de Venise, puis Istanbul. Ensuite, on passe par la Crimée et Boukhara, Samarcande, le point où toutes les routes se croisaient. La steppe, le désert, la Mongolie, puis la Chine et enfin Pékin. C'est ce parcours que la Chine veut rouvrir pour ses exportations et son influence géopolitique.
Est-ce qu'il existe d'autres voies ?
Ben oui, la Chine de Xi Jinping valorise une voie maritime aussi. Elle fait le tour de l'Afrique pour arriver en Europe. Elle reflète les logiques de la propagande et la stratégie de la Chine. Faire de l'Afrique son jardin et de l'Europe son débiteur. Derrière la magie de l'histoire, on retrouve aujourd'hui les intérêts et les objectifs d'un empire naissant.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font à suivre. Quand j'étais jeune, les séries, c'était ça.
Et comment va Linda ? Où est-elle ?
Quelque part, entre Rio et Créteil, à la recherche de son père.
La pauvre. Tu lui as dit que c'était toi ?
Non, je n'ose pas. Nous sommes mariés depuis 10 ans et je crois qu'elle le vivrait très mal.
C'était Cadéo. Jadis, parents pauvres de la création audiovisuelle, les séries sont désormais en passe de supplanter les films sur le plan de la qualité. Pour fêter l'ouverture du festival Sériemania, nous accueillons à 6h20 la scénariste d'Engrenage et d'Un village français, Marine Françou, avec qui on tâchera de comprendre ce qui fait le succès ou pas d'une série.
Bon réveil à tous, il est 6h16. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Nouvel épisode sur le Brexit, l'Union européenne accepte un court report de la date butoir, une sortie le 12 avril ou le 22 mai. Le texte de Theresa May doit être à nouveau soumis aux parlementaires la semaine prochaine. Les lycéens appelés à une nouvelle journée de mobilisation pour protester contre le réchauffement climatique. À Paris, un rassemblement est prévu devant le Panthéon à partir de 13h. Enfin, le navire italien qui a sombré le 12 mars contenait 1050 tonnes de matière dangereuse. C'est ce que montre l'inventaire détaillé de la cargaison rendu public par la préfecture maritime de l'Atlantique.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 22 mars. L'actualité, c'est aussi le début de la 9e édition du festival Sériemania. Ce festival dédié aux séries télévisées se tient à Lille jusqu'au 30 mars. Et à cette occasion, nous avons décidé de vous entraîner dans les coulisses de la conception d'une série en accueillant ni plus ni moins la personne que j'aurais voulu être, la scénariste d'un des fleurons de la série française, Engrenage, sur Canal+. Bonjour Marine Francou.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous dirigez donc actuellement l'atelier d'écriture de la série Engrenage sur Canal+. Vous avez également été auparavant scénariste d'Un village français. Ma première question est simple et pas du tout journalistique, purement intéressée. Il y aura une saison 8 d'Engrenage et est-ce que le juge Roban va revenir ?
Alors oui, il y aura une saison 8. Je suis en train de travailler dessus. Super. Avec mes amis scénaristes depuis le mois de juin même maintenant.
D'accord. Donc, ah oui, oui.
On n'a pas attendu, si vous voulez, que le tournage de la saison
c'est
7 soit terminé.
C'est toujours comme ça en fait, vous allez nous expliquer comment on fait les séries.
Pour commencer, parce que maintenant, l'idée c'est de répondre à l'exigence de Canal+, qui est d'être à l'antenne au maximum tous les ans.
Alors ça, on va peut-être passer directement à cette question-là. Aujourd'hui, avec la pression de Netflix qui dégaine une série toutes les semaines, vous, sur les séries françaises, hein, j'ai envie de dire même Engrenage qui est très installé, hein, il y a une pression supplémentaire pour produire plus vite.
Totalement. Et moi, j'ai jamais travaillé pour Netflix, mais mes petits camarades scénaristes qui le font me disent que la pression est encore plus grande, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité pour nous scénaristes d'apprendre à nous organiser pour aller vite.
Alors les séries, je le disais tout à l'heure, autrefois en France, du moins en France, c'était le parent pauvre de l'audiovisuel. Aujourd'hui, entre 10%, Le Bureau des Légendes ou Engrenage, donc que vous écrivez, on a l'impression que la série est devenue un format presque plus prestigieux que le cinéma. C'est vraiment la série, c'est le format star aujourd'hui. Comment vous expliquez ce revirement total en quelques années ?
En fait, je pense que la France avait un temps de retard sur les États-Unis. Ça s'est produit aux États-Unis, dans les années 90 avec HBO et tout ça. En France, ça a mis plus de temps parce que les produits télévisuels classiques ont marché plus longtemps et du coup, les chaînes n'avaient pas tellement.
Qu'est-ce que vous avez contre Navarro ?
Voilà, c'est ça. N'avaient pas tellement de nécessité de se renouveler et puis tout à coup, ils se sont dit mince, on prend un train de retard et. Voilà, ça part des diffuseurs et après tout le monde.
Tout le monde a fini par suivre.
Tout le monde a fini par suivre et à apprendre à faire.
On sent aussi que les méthodes américaines ont débarqué en France. Avant, chez nous, on avait un peu le culte de l'auteur avec un grand A, le scénariste solitaire qui concevait une fiction de A à Z. Aujourd'hui, écrire un scénario pour la télévision, c'est un travail collectif. Sur une grosse série comme Engrenage, vous n'êtes pas seul. Vous dirigez l'écriture d'un pool
Oui,
d'auteur.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, en France, c'est une idée sans doute plus compliquée que
dans toujours
d'autres
aujourd'hui.
Pays. À cause de... Non, là, ça va. De toute manière, je pense que ce mythe, comment dire, fonctionne au cinéma, parce que c'est vrai que au cinéma, on peut prendre 3 ans pour écrire un film, c'est pas grave.
Surtout, ça reste un film, unitaire. Tandis que là, sur une série, il faut faire 8 épisodes ou plus.
On peut pas, donc. Et cette organisation, c'est vrai qu'on l'a un peu copiée sur les États-Unis. Moi, en tout cas, la mienne, elle vient de ce que j'ai vécu dans le village français avec Frédéric Rivine. C'est-à-dire, effectivement, un pool d'auteurs, déjà au départ pour construire la grande histoire qu'on appelle les arches d'une saison. Donc, ça, c'est un travail de plusieurs semaines enfermées dans la même pièce. Et petit à petit,
avec
un paperboard, un tableau, qui bâtit la saison. Et puis ensuite, voilà, un travail vraiment sur les épisodes, avec des couches successives de travail, mais toujours à plusieurs.
Combien vous êtes, par exemple, pour Engrenage, pardon?
Sur la saison 7, on était 8 auteurs.
Ah, 8 auteurs,
ouais.
Est-ce que dans Engrenage, qui est une série pour le quidam qui la regarde extrêmement réaliste, on a l'impression, on se dit que vous avez dû embaucher des consultants pour respecter le réalisme de la série. Est-ce que parfois, face à ces consultants, vous dites bon, mais là, Coco, on fait quand même de la fiction, il faut que ça soit efficace, donc ça, on va s'affranchir un peu de la réalité. Et est-ce que par exemple, dans la saison 7 que je viens de voir, il y a des choses qui sont finalement pas si réaliste que ça, parce que c'est la priorité quand même à l'histoire, à la narration.
Oui, en fait, on a des dialogues constants avec nos consultants sur la question que vous dites, c'est-à-dire à la fois on leur demande de nous trouver... En fait, ça marche dans les deux sens. On a envie d'incarner certains types de conflits entre les personnages ou certaines situations. On leur dit, t'as pas une idée qui vient du réel, qui nous aide à trouver la situation.
Ils sont force de proposition.
Et ils sont, et à la fois, effectivement, parfois ils nous disent, oui, non, mais là, tu as écrit ça, c'est pas possible. Donc on dit, oui, alors comment on pourrait ? Mais en même temps, on est quand même, nous, effectivement, en train de faire de la fiction. Et c'est ce travail-là qui est passionnant avec eux, en fait, d'être toujours aux limites.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que la fiction française a refait son retard sur, pas seulement les États-Unis d'ailleurs, les fictions scandinaves, israéliennes, ou est-ce qu'on est toujours un peu à la traîne sur l'innovation en France ? Est-ce qu'on est encore un peu plus frileux ?
Je pense qu'on est encore un petit peu plus frileux pour ce qui est de l'innovation, parce qu'en fait, l'innovation, c'est vraiment le moment difficile dans notre métier, c'est-à-dire il faut convaincre un diffuseur d'aller vers quelque chose de nouveau, et ça, je pense qu'en France, ça continue à rester compliqué.
Eva Rock, dernière question. Non, mais
je vous écoutais.
Parce que vous leviez votre main tout à l'heure.
Vous parliez des consultants que vous avez embauchés, enfin avec lesquels vous travaillez. Il faut peut-être rappeler qu'Engrenage, c'est à la fois de la politique et du monde judiciaire. Donc j'imagine que vous avez des consultants qui viennent de ces deux milieux-là.
Oui, on a des avocats, des juges d'instruction et évidemment des policiers. Ouais.
Merci beaucoup, Marine. Vous avez une prochaine série sur laquelle vous allez travailler, ou vous concentrez exclusivement en Grenage ? J'imagine que ça
là,
prend.
Là, je suis complètement en immersion. Je suis incapable de flotter pour penser
à
autre chose.
Est-ce que le juge Roban revient ? Parce qu'il prend sa retraite, mais je me suis renseigné. Il peut être consultant sur une affaire.
Il faudra regarder toute la saison 8 pour le savoir.
Ça, c'est bien teasé. C'est un bon teaser. Merci beaucoup, Marine Franco, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avant de retrouver le journal de 6h30 du mirifique David Doucan, la météo avec pléthore de bonnes nouvelles, du soleil et de la chaleur pour le week-end.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Juste avant le journal, on fait un point sur la météo avec vous, Céline. Il fait de plus en plus beau.
Oui, le soleil sera vraiment bien présent aujourd'hui pour tout le monde. Petit bémol près des côtes de la Manche avec un ciel encore couvert ce matin, notamment sur la pointe bretonne et celle du Cotentin. Des brouillards plus ou moins denses entre les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, en passant par la région parisienne. Attention si vous êtes sur la route. Ces brouillards vont se dissiper, la grisaille se morceler, laisser passer de larges éclaircies. Ça restera quand même un brin couvert sur les côtes de la Manche cet après-midi.
Un mot des températures.
Toujours bien fraîche ce matin. matin avec des gelées même dans l'Est. Les maximales sont en hausse cet après-midi, 5 à 6 degrés au-dessus de la normale avec une moyenne de 15 à 18 degrés pour la moitié nord, 19 à 23 même pour la moitié sud. Vous voulez un petit mot du week-end ?
Oh, je veux un petit mot du week-end.
Avec un peu de changement par rapport à aujourd'hui. Pour demain, des nuages encore près des côtes de la Manche, soleil partout ailleurs. Dimanche, ce sera un petit peu plus nuageux sur la moitié nord, grand beau encore pour la moitié sud et les températures vont rester très douces l'après-midi et encore bien fraîches le matin.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos nappées d'une délicate couche de fantaisie, mais point trop épaisse non plus la couche de fantaisie, car le journalisme reste notre cœur de métier. Voilà pourquoi en studio, durant les reportages de nos journalistes, surtout comme hier sur le thème des conducteurs qui roulent sans assurance, c'est la concentration qui prévaut.
En termes financiers, ça fait un peu compliqué de payer une assurance, sachant que...
Bah, prends le bus, hein, Coco.
Prends le bus, Coco.
Coco, prends le bus. Bien, à suivre, des journalistes, des vrais. Politique, économie, médias, les trois fantastiques sont dans les starting blocks. Michael Darmon, notre expert politique, nous entendra notamment dans les coulisses du Sénat pour comprendre la décision des sénateurs dans l'affaire Benalla.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Pression maximale sur Christophe Castaner. Cette fois, il n'y a plus de fusibles. À la veille d'un nouveau samedi de mobilisation, le ministre de l'Intérieur a promis l'impunité zéro. Qu'en pensent les policiers ? La réponse dès le début de ce journal. L'affaire Benalla et ses conséquences. Rien ne vient plus entre l'exécutif et le Sénat. Le gouvernement a-t-il surréagi hier ? Ce matin, les conseillers du président essaient de calmer le jeu. Pendant ce temps-là, un ancien chef de l'État fait la tournée des lycées pour parler d'Europe. François Hollande sera aujourd'hui dans le fief de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont.
Europe 1.
19e journée de mobilisation des Gilets jaunes demain avec des casseurs aussi déterminés que la semaine dernière qui cibleraient Paris ou Nice, Montpellier, Toulouse. Difficile de répondre à l'avance à toutes ces questions, mais une chose est sûre, le ministre de l'Intérieur n'a plus le droit à l'erreur. Christophe Castaner présentait hier le dispositif du week-end au syndicat de policiers. À la sortie, le discours est apprécié, mais les représentants restent sur leur garde. Écoutez Fabien Von Elmerich, secrétaire général du syndicat Alliance.
Il y a eu un discours d'extrême fermeté. Les discours, évidemment, sont plaisants à écouter. Maintenant, nous, on attend les actes. Il y a des directives de prise, il y a beaucoup plus de mobilité, par exemple, pour nos collègues qui vont faire du maintien de l'ordre. Heureusement, on va remplacer les collègues qui font les plantes vertes aujourd'hui par des sentinelles, ce qui permettra de recentrer le policier sur son cœur de métier et enfin faire du vrai boulot de flic. On demande à voir et dès samedi, on appréciera.
Fabien Von Elmerich, secrétaire général du syndicat Alliance, au micro européen d'Alain Acco. Le Royaume-Uni a désormais 2 options pour obtenir un report du Brexit. Si les députés de la Chambre des communes approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce, la date de sortie sera le 22 mai. Si au contraire, ils rejettent ce texte une troisième fois, Theresa May aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes en Grande-Bretagne. Elle pourrait alors demander un nouveau report dont la durée n'a pas été fixée. Vous avez compris, Mathieu ?
J'ai tout à fait compris et surtout alors, suivi ce que vous racontiez.
C'est que tout le monde a compris. Le Premier ministre qui boycotte
pas très gentil de votre part.
Les questions au gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale qui annule un événement commun avec Gérard Larcher, la Macronie, a-t-elle surréagi à la décision du Sénat de transmettre à la justice les cas de 3 hauts responsables de l'Élysée soupçonnés d'avoir menti, au moins par omission, sous serment devant la commission d'enquête Benalla. On a eu le sentiment hier d'une guerre ouverte, au moins médiatique, entre la Haute Assemblée et l'exécutif. Et ce matin, au Palais de l'Élysée, on essaie plutôt de calmer le jeu. Jean-Rémy Baudot.
En politique, une colère est souvent éphémère. Après les postures des premières heures, très vite dans la soirée hier, les proches du chef de l'État ont tenté de calmer le jeu après la décision du Sénat. Aucun commentaire officiel de l'Élysée, aucune pique, il ne s'agit pas de remettre de l'huile sur le feu. Même tonalité à Matignon, on restera entre responsables politiques raisonnables, confie un conseiller d'Édouard Philippe. Au sein de l'exécutif, en réalité, personne ne s'est étonné de la décision des sénateurs. Pas de surprise étant donné la composition du bureau, explique un membre du gouvernement, qui pense d'ailleurs que cette affaire n'aura aucune incidence sur les négociations en cours pour la réforme constitutionnelle. Reste néanmoins un goût amer, comme ce ministre fin connaisseur du Sénat qui persifle « Le Sénat, il sourit et après il te met un coup de couteau dans le dos », fin de citation. la commission Benalla laissera manifestement des traces.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là se joue au cœur du pouvoir une bataille sourde pour la mairie de Paris. Les candidats issus de la majorité sont très nombreux, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il y a le mathématicien Cédric Villani, il y a le ministre Mounir Majoubi et surtout le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui lui ne s'est pas encore déclaré, mais ça le démange tant il a peur d'être pris de vitesse. Virginie Riva.
Benjamin Griveaux demande à sortir du gouvernement, mais nous n'avons pas encore pris notre décision, explique-t-on à l'Élysée. Une sortie est possible en début de semaine, en même temps que Nathalie Loiseau, pressentie tête de liste aux européennes. À l'Élysée, on s'empresse d'ajouter que ce scénario peut être très simple à gérer. Porte-parole, ça n'est pas un job à temps plein forcément, dit un conseiller du président. D'autres ministres pourraient donc reprendre ce rôle en plus de leur portefeuille. Mais sortir du gouvernement, ça n'est pas être le candidat d'En Marche pour Paris. Dans l'entourage de Benjamin Griveaux, on en est conscient. S'il sort, il prend son risque, dit un proche. En effet, la désignation, ce sera début juin et la bataille s'annonce peut-être plus dure que prévu. La candidature du mathématicien Cédric Villani est prise très au sérieux. Il a une notoriété national. Il a une bonne image, explique un cadre d'En Marche. Quant au secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, il correspond à la sociologie de Paris, dit-on. Chacun donc ses atouts, même si, bien sûr, celui qui a la tendresse du président, c'est Griveaux, rappelle un conseiller d'Emmanuel Macron.
Virginie Riva pour Europe 1. Les Algériens restent mobilisés un mois après le début de la contestation. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans tout le pays. Le mot d'ordre, le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. Une voiture a foncé dans la foule dans une ville du centre de la Chine. 6 personnes ont été tuées par ce conducteur qui agissait intentionnellement. Il a été abattu par la police.
À suivre dans ce journal, un ancien chef de l'État sur les terres de Marine Le Pen pour parler d'Europe. François Hollande sera aujourd'hui devant des lycéens d'Hénin-Beaumont. A tout de suite.
Il est 6h35.
Europe 1.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan et direction Hénin-Beaumont, où François Hollande rencontrera aujourd'hui des lycéens.
Oui, l'ancien président fait en ce moment, vous le savez, une tournée des lycées pour parler d'Europe à quelques semaines des prochaines élections. Et il sera aujourd'hui dans le fief de Marine Le Pen et à la mairie. Rassemblement National d'Hénin-Beaumont, on dénonce une opération électorale. Reportage sur place, Marguerite Lefebvre.
Avec ses camarades de terminale, Ismaël prépare cette visite depuis des semaines. Ils ont identifié 7 thématiques autour de l'Europe et une batterie de questions qu'ils poseront à l'ancien président François Hollande.
C'est un cours d'histoire. Parler de l'Europe, c'est quand même quelque chose de bien. Parler de l'Europe, l'économie de l'Europe, l'immigration, tous les problèmes-là. C'est quand même l'ancien président. C'est un personnage historique. C'est bien qu'il vienne dans les lycées comme ça. Pourquoi il ne viendrait pas?
Parce qu'à quelques centaines de mètres du lycée, à la mairie d'Hénin-Beaumont, la pilule a du mal à passer. L'équipe municipale, Rassemblement National, dénonce une opération de communication juste avant les européennes. Christopher Zurek est adjoint au maire.
On trouve qu'il y a une conjonction un peu bizarroïde des agendas consistant à maintenant un peu moins de 2 mois des échéances électorales, à venir parler de l'Europe. S'il vient évoquer les politiques européennes, il va créer le sentiment qu'en gros elles sont forcément indispensables puisqu'elles existent. Nous, on dit un peu la chose contraire. Dans un service public qui est supposé être marqué par le devoir de neutralité de réserve, ça peut créer une petite rupture d'égalité.
La mairie a donc demandé le report de cette intervention après les élections. Demande balayée d'un revers de main par le rectorat qui soutient le volet pédagogique d'une telle visite. Hénin-Beaumont, Marguerite Lefebvre, Europe 1.
Et un mot de football pour conclure. L'équipe de France se déplace en Moldavie à Chisinau. Premier match de qualification pour l'Euro 2020. C'est le début de l'aventure pour cette nouvelle édition de la Coupe d'Europe des Nations. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45.
Merci beaucoup. C'était le journal de David Doucan. David, qui est pour moi, je tiens à le dire, beaucoup plus qu'un collègue, un véritable sparring partner. Car chaque matin, quand je monte face à lui sur le ring de l'humour, je sais que non seulement il va encaisser avec courage et abnégation, mais mieux, il va répliquer. Comme hier, où son crochet du droit m'a surpris, je pensais être pourtant allé déjà assez loin dans le potage, il a réussi à faire encore plus borderline. Sacré David. Mais voilà, je me suis fourré le doigt dans l'œil, car David en aime un autre.
Tant que c'est dans l'œil. Pardon.
David Doucan, l'homme qui a longtemps hésité entre le journalisme et le music hall et qui un jour a choisi. Céline, la météo, je vous prie. De la douceur aujourd'hui, Céline.
Oui, encore plus qu'hier, puisqu'on est 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, une belle moyenne de 15 à 23 degrés du nord au sud, 15 à Brest, à Cherbourg également, 17 à Lille, 18 à Paris, jusqu'à 23 degrés attendus à Nîmes. Le tout sous un soleil généreux, vous vous en doutez. On a juste un petit bémol près des côtes de la Manche, avec des nuages qui vont rester toute la journée. C'est même un petit peu plus nuageux ce matin puisqu'on aura quand même des éclaircies dans l'après-midi.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre jusqu'à présent avec Eva, Céline et moi, vous étiez avec les trois pas fantastiques, trois journalistes, trois styles.
Ah mes enfants.
Ah mes aïeux. Ah merde.
Voici à présent les trois fantastiques. Politique, économie, médias. Vous appréciez les avis tranchés et les arguments massus. Vous allez adorer l'édito de Mickaël Darmon sur les coulisses du Sénat qui a donc décidé de transmettre à la justice les dossiers de trois collaborateurs d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla.
Bon réveil à tous, il est 6h39. Il est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le Royaume-Uni a désormais deux options pour obtenir un report du Brexit. Si les députés de la Chambre des communes approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce, la date de sortie sera le 22 mai. Si au contraire ils rejettent ce texte une troisième fois, Theresa May aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes en Grande-Bretagne. Elle pourrait alors demander un nouveau report dont la durée n'a pas été fixée. 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Christophe Castaner a présenté hier le dispositif de sécurité au syndicat de police. Le ministre de l'Intérieur promet l'impunité zéro. Enfin, les Algériens restent mobilisés un mois après le début de la contestation. Des manifestations sont prévues aujourd'hui dans tout le pays. Le mot d'ordre, le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont là, voici venu le moment toujours fascinant à observer où Céline Dacosta plisse les yeux pour se concentrer et tenter de comprendre l'édito économique d'Axel de Tarlé. On notera au passage que l'expression « tu m'étonnes » reste la plus efficace pour permettre à celui qui l'emploie de faire croire qu'il a compris quelque chose à celui qui vient de dire que pas du tout. Démonstration.
C'est pour ça que les Européens sont unis, parce que c'est tellement compliqué que personne n'a envie de foutre le doigt dedans.
Hein. Tu m'étonnes.
Bien joué Céline. Voici donc les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie. On commence par la politique, ou plutôt ce matin les coulisses de la politique avec vous, Mickaël Darmon. La sortie du grand débat se déroule dans un climat de tension généralisée entre les institutions de la République. Dernier acte, le Sénat a saisi la justice contre Alexandre Benalla et les proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. En représailles, Édouard Philippe a boycotté les questions d'actualité au Sénat. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Alors bienvenue au Sénat, hein, un monde où tout n'est que subtilité et complexité, c'est vrai qu'il faut suivre. Le bureau du Sénat, instance suprême, a décidé donc par vote de saisir la justice après la commission d'enquête. Benalla, le Sénat c'est une chambre, vous savez, où la majorité est tenue par la droite, on trouve aussi des socialistes et des communistes, point de convergence, tous opposés donc au gouvernement et au président de la République. Donc l'occasion est beaucoup trop belle d'envoyer des nouveaux missiles sur l'Élysée. Mais c'est là où ça se complique, parce que comment laisser les sénateurs s'exprimer contre l'Élysée tout en essayant de ne pas se mettre l'Élysée à dos? C'est l'équation délicate de Gérard Larcher, qui lui a de bonnes relations avec donc Emmanuel Macron, parce qu'il travaille avec lui sur la réforme pour la réduction des parlementaires. Bref, Larcher en fait cherche à préserver le Sénat, parce qu'on sait que ce mandat de sénateur est souvent très critiqué. Donc il a réuni le bureau, n'a pas pris part au vote, mais il a dit qu'il respecterait la décision, et il a entériné donc cette décision du vote du Sénat, par exemple, en disant que les collaborateurs d'Emmanuel Macron, eh bien, il y aurait peut-être une matière à décider peut-être d'ouvrir une enquête si jamais il y avait un soupçon donc de faux témoignage. On voit bien que tout ça est dans la subtilité.
Si je comprends bien, c'est la guerre entre le Sénat de droite et l'Élysée, mais pas entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron, c'est
ça ? Et voilà, bienvenue dans les jeux de rôle, hein, au sommet de la République. Alors là, tout d'abord, parce que depuis le début de l'affaire, des messages de non-agression passent entre les cabinets des présidents Macron et Larcher. C'est la raison pour laquelle on a envoyé une fois de plus Édouard Philippe qui s'y colle. Il boycotte les questions d'actualité du Sénat. La belle affaire, symbolique, mais sans aucune conséquence. Ça fait monter la tension et on croit qu'effectivement, c'est la guerre. L'essentiel, c'est que Larcher puisse continuer à parler avec Macron pour aboutir à une réforme du nombre de sénateurs. Enfin, quand le gouvernement le décide, il aime bien le Sénat, puisqu'ils ont pris la loi Retailleau pour faire la loi anti-casseurs. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien qu'on est encore dans un jeu de rôle. En fait, dans cette guerre des boutons dorés, hein, c'est pas fait pour arranger donc l'image des élus auprès des Français. Eux, ils attendent que la politique vienne les aider dans leur vie personnelle, dans leur vie de citoyen. Depuis hier, on assiste plutôt à un petit débat très hexagonal.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. J'allais dire Axel Darmon, ce qui aurait été un mix étonnant de nos deux éditorialistes. Axel de Tarlon. On parle économie avec vous, Axel. Mois de février exceptionnel pour le livret A. Pourtant, c'est un placement qui fait perdre de l'argent, le livret A, non ?
Oui, ça fait perdre de l'argent parce que l'inflation est à 1,3% et le livret A n'est pas à 1,3%, il est à 0,75%.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ?
Ce qui fait que sur un an... Alors, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'en février, les Français ont placé sur ce livret A 1,9 milliard d'euros. C'est quasiment deux fois plus que février 2018. Et c'est le meilleur mois de février depuis 10 ans. Alors, que s'est-il passé durant ce mois de février, le mois écoulé? Eh bien, il y a deux explications. D'abord, il y a eu 2 millions de Français qui ont touché la prime Macron. Vous savez, 2 millions de salariés. Qui, en moyenne, c'était 450 €.
Donc, ils ont épargné.
Puis, alors, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'on est passé au prélèvement à la source. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 15 janvier, il y a 9 millions de Français qui font la défiscalisation. Alors, soit parce qu'ils ont une nounou, soit parce qu'ils ont une aide à domicile, soit parce qu'ils font des dons, ou soit parce qu'ils font des placements défiscalisés, qui ont reçu par avance 60% des crédits d'impôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez le 15 janvier.
Oui, j'ai rien reçu, moi.
Vous ne devez pas défiscaliser. Donc, il y a quand même 9 millions de Français. Si vous avez une nounou, vous avez droit à un crédit d'impôt. Et ce crédit d'impôt, qui est étalé sur l'année, là, le gouvernement vous en a donné. Il vous a tout donné d'un coup, 60% le 15 janvier.
Passez-moi Bercy.
Et voilà. Et donc, qu'ont fait les Français? Eh bien, ils ont mis cet argent sur qui s'est retrouvé sur le livret A au mois de février.
Ce que ça dit de nous, c'est qu'on préfère épargner plutôt que consommer.
Voilà, nous sommes des fourmis. Et c'est d'ailleurs une déception pour le gouvernement qui espérait, avec le prélèvement à la source, que libéré de cette contrainte de l'impôt, puisque maintenant...
On allait dépenser à tout va.
Et qu'on allait relancer la consommation.
Eh oui.
Ah bah, pas du tout.
Pas du tout.
On continue à économiser comme des petites fourmis. Pourquoi? Parce qu'on se dit toujours que la matraque fiscale n'est pas loin et... On n'a pas tort, parce que je vous ai parlé à l'instant de cet argent que le gouvernement nous a donné par avance, les crédits d'impôt le 15 janvier. Mais le gouvernement ne sait pas ce que vous allez faire cette année en 2019. Peut-être que vous n'allez pas faire de dons défiscalisés, peut-être que vous n'allez pas prendre de nounou, peut-être que vous n'allez pas garder...
Il faudra rendre l'argent.
Et le 15 septembre, l'État va vous écrire, Trésor, et dire « Eh ben dis donc, le 15 janvier je vous ai donné de l'argent, vous allez me le rendre ». Donc vous voyez, on fait bien d'en garder un petit peu sous le pied au cas où. Et d'ailleurs, vous savez que ça a été théorisé ça par l'économiste britannique Ricardo qui dit que quand l'État est trop dépensier, le particulier se met à épargner car il sait bien à la fin que tout ça, ça va lui retomber dessus.
Et comme quoi, il était fort en économie et en foot, Ricardo. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. Comment ça, c'est pas le même? Merci Axel. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Jérôme Lacroix?
Ah non... Étienne Dao a 40 ans de carrière, un plaisir exponentiel à créer et monter sur scène. Étienne Dao n'a pas vieilli, il a grandi, il a mûri, il continue de nous accompagner, surtout dans les bandes originales de nos vies, comme vous le verrez dans ce documentaire Dao par Dao sur France 3 ce soir. Il a accepté de se raconter, mais alors de raconter surtout son processus créatif, une longue interview qui est nourrie d'archives, il n'y a pas de voix off intempestive, pas de commentaires, seulement lui qui évoque l'Algérie, son pays natal, ses parents, son arrivée en France, son désir d'intégration et puis la musique qui devient vitale. Dao évoque ses sources d'inspiration, alors ça va de Pink Floyd au Velvet en passant par Chet Baker. Chaque mot est pesé, notamment quand il évoque son burn-out après les premières années de succès.
J'étais en pleine tournée dans le monde entier, ça a été un cauchemar. Il n'y avait que l'heure que je passais sur scène où j'étais bien. Et autrement, je souffrais de martyr, j'étais phobique de tout. J'étais devenu fou. Et j'étais au Château Marmont dans ma chambre et je me suis senti... attiré vers la fenêtre et j'ai commencé à enjamber la fenêtre pour sauter. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être allé au bout de quelque chose. Voilà, j'avais perdu ma trace.
Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie.
Étienne Dao, il va s'excuser presque de ce passage à vide, mais cette épreuve a indéniablement marqué une étape dans sa carrière. Il n'est plus seulement l'enfant de la pop des années 80. Il va imposer son écriture, il va multiplier les duos, les rencontres. Il parle avec émotion de Serge Gainsbourg et de ce désir qu'il a de continuer à monter sur scène.
C'est vrai que la musique a toujours été la chose la plus importante de ma vie, comme une vocation. Comme si on prend la bille, quoi. Véritablement, je ne vois pas comment on peut le faire autrement. Parce que ça mange toute son existence, tout son temps, toute sa vie. Mais ça permet aussi d'aller vers les autres, de parler. Les autres vous choisissent parce que vous êtes une voix pour eux. La longévité, c'est ça, hein. C'est d'avoir été choisi par des gens qui considèrent que votre voix, c'est la leur. C'est ça, durer. C'est le fait des autres.
La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin.
Ce documentaire réalisé par Sylvain Bergère et écrit par Christophe Comte est une pépite.
Ça a l'air, ouais.
C'est un portrait travaillé, c'est ciselé, c'est un miroir de Dao et sans aucun doute le film qui va rester une référence au sujet de cet artiste. J'ai un seul regret, un seul, l'horaire de diffusion, 23h05. Je pense que c'est une erreur fondamentale de la part de France 3. Non, c'est 23h05.
Ah, c'est ce que vous vouliez, ça, c'est l'horaire que vous auriez souhaité.
J'aurais aimé que ce soit 21h.
23h du matin,
on regarde le match et on regarde Dao.
Ah, c'est une bonne
soirée, en fait.
Et oui,
bonne
idée. Par contre, on présente pas la matinale, parce que sinon,
c'est
ça devient compliqué.
C'est samedi demain.
Ah, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai. On peut regarder
pas,
alors.
Pas demain.
Ah, bah, c'est vrai, je ne viens pas demain. C'est Bernard Poirette, oui. Fabuleux. Fabuleux. Bon, alors, merci beaucoup, Everrock. Merci, Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart.
Il est 6h51, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche du doigt le week-end. Mais avant de vous laisser en compagnie de Nico Salega, je vous proposerai, comme le veut la coutume, le débrief de la matinale d'hier. Au programme, Laurent Cabrol en roue libre, Céline Dacosta en roue libre aussi, mais sans frein à main, et Cupidon qui décoche ses flèches, suscitant un rapprochement inattendu entre Vincent Hervouette et Audrey Crespo-Mara. Comme dirait Nikos avec la voix de Rocco Siffredi dans Rocco et ses sœurs.
C'est bon ça.
Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale. Merci.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Oui, le week-end tant attendu est quasiment là pour l'équipe de Debout les copains. Et pourtant, quelque chose me dit, une fois de plus, que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, qui, c'est légitime, en a un petit peu marre que je le cueille à froid comme ça chaque matin, avant même qu'il ait pu dire un mot. Là, durant la coupure pub, il m'a pris entre quatre yeux et m'a dit, avec ce phrasé à mi-chemin d'André Malraux et de Jean-Claude Van Damme,
« Ne m'arrête pas maintenant, don't stop me now !»
Oui, mais c'était pas mon intention, Nikos. Au contraire, sachez que je serai toujours là pour vous pousser, surtout si vous êtes au bord de la falaise.
C'est bon, ça.
Oui, c'est bon de pouvoir compter sur un ami. Eh bien, rassurez-vous, celui que vous appelez affectueusement l'autre Konos, l'ami précieux en grec, sera toujours là pour vous. Pour saluer d'abord, plus que le journaliste, l'artiste. Cet animateur qui, en l'espace d'une fraction de seconde, peut, pour faire le show, basculer du sérieux au rire, avec des vannes dignes des plus grandes heures de Roland McDan.
Il vibre à nouveau, Florent Manadou, avec la perspective, vous le disiez, de l'or olympique à Tokyo dès l'année prochaine.
L'or pour Manadou. Vous l'avez ?
Oui, bien vu.
Merci les amis.
Que Nikos défie Gad Elmaleh sur le terrain du LOL, avec l'arrivée des premières chaleurs du printemps, les journalistes de la rédaction commencent à fricoter sec, hors antenne évidemment, mais même, et c'est là que c'est nouveau, à l'antenne. Audrey Crespo-Mara ne cache plus sa fascination pour notre expert géopolitique, Vincent Hervouette.
Vincent Hervouette, toujours pour la justesse hein, du point de vue de l'édito international, vous faites sourire Audrey Crespo-Mara.
Ah bah je le trouve brillant,
c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je le fais.
C'est plus une radio, c'est une boum. Il y a les couples qui sont encore au stade du flirt, comme eux, et ceux qui sont déjà bien installés, comme Nikos et Hélène Zeleny, qui chaque jour se trouvent de nouveaux points communs. Points communs qui, soit dit en passant, devraient nous aider à progresser sur la cible des 15-25.
J'adore la techno.
Mais faut qu'on aille en soirée, toi et moi.
Folle nuit en perspective. Bref, je sais ce que vous vous dites, chers auditeurs, mais enfin, qui bosse dans cette radio? Qui s'occupe de l'actu? Qui prête une oreille attentive à ce que racontent les journalistes dans leur sujet? Eh bien, je vous rassure, c'est Céline Dacosta qui s'occupe de ça. Comme on a encore pu le constater hier durant le sujet sur le Brexit et la réunion décisive des membres de l'Union européenne.
Donald Tusk, le président du Conseil européen, il a d'ores et déjà donné la position de l'Union.
I believe that a shot.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
C'était R. Kelly sur un banc.
Voilà, pas d'inquiétude à avoir, chers auditeurs.
Tout ça pour ça.
Le 7-9 est entre de bonnes mains. Bisous et bon week-end.
Merci, cher Mathieu Noël. Merci, Eva Rock. Vous chantez bien. Hein. Elle chante bien, c'est une belle
histoire. Elle fait pas que ça, mais.
Je vais devenir maître chanteur avec vous. Parce que je donnerai tout à Mathieu Noël. Vous en pensez quoi, Laurent Cabrol? Bonjour à tous.
Que du bien. Je sens qu'il y a du soleil dans l'air et que. On est vraiment dans l'esprit léger ce matin.
C'est la sève du printemps qui provoque ces expressions comme ça artistiques.
Ouais, c'est
fulgurance.
Je vous laisse vous débrouiller avec la sève du printemps, Laurent. Voilà. Faites-en bon usage.
À propos de sève, si vous êtes en forme, vous faites une cure de bouleau, de sève de bouleau.
Ah bah oui.
Et ça se boit,
Ça se boit le matin, un verre. Tiens, j'en parlerai dimanche avec l'ami Bernard Poirette dans ma chronique jardin, parce que j'ai une chronique jardin.
Bah oui, on le sait.
On me prête corriche.
À quelle heure le dimanche?
7h moins le quart.
Ok, bon réveil.
Alors, en ce qui concerne les brouillards, je voudrais y revenir ce matin parce qu'ils sont quand même assez nombreux, entre 200 et 350 mètres. Ça, c'est la distance maximale. Nous en avons sur vers Rouen, vers Amiens, Lille, Rennes, Saint-Nazaire, Le Mans, Orléans, Dinard. Ce sont des brouillards très présents qui vont bien sûr se disperser pour laisser place au soleil, car c'est une très belle journée qui s'annonce. Malheureusement, il y a toujours cette amplitude de température qui est assez conséquente et qui va perdurer. Il fait moins 4 en Sologne en ce moment. Hein. Moins 4 dans la Creuse et dans le Nivernais, moins 2 en Dordogne, moins 1 dans le Morvan, 0 du côté de Nancy, 1 à Besançon et à Lyon, 2 à Rennes, 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Bordeaux, 6 à Marseille, 8 à Paris-Ville et 11 degrés à Cannes. Voilà
c'est le printemps.
pour les températures qui règnent à l'heure où nous parlons et dans la journée, entre 17 et 22 degrés.
Merci cher Laurent Cabrol. À tout à l'heure, dans une demi-heure pour un autre point météo.
Juste avant le journal de 7h30.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.